quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée au mouvement et formation des étudiants d'Afrique noire après les indépendances. Aujourd'hui, le débat sur l'histoire des rapports entre les pays socialistes et les étudiants d'Afrique. Ce matin, avec Séverine Attar, nous allons donc vous plonger dans un chantier historique en cours, celui qui rassemble chercheurs et chercheuses autour d'un vaste groupe social, culturel et politique, celui des étudiants africains, qui rejoignirent, à partir des indépendances surtout, mais auparavant également, les universités de Kiev, de Moscou ou de Cuba pour se former. Nous serons pour cela avec Michèle Leclerc-Olive, elle est chercheuse au CNRS, membre du laboratoire Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux, l'IRIS, et également initiatrice du programme ELITAF, elle nous dira ce que signifie cet acronyme. Constantin Katsakioris sera également avec nous au téléphone depuis Athènes. Il termine sa thèse à l'École des hautes études en sciences sociales sur la formation des étudiants africains dans les pays socialistes. Et nous aurons également en deuxième partie de cette émission, Abitassé, qui termine un ouvrage sur les étudiants éthiopiens envoyés après la révolution de 1974 dans les pays socialistes. Commençons cette émission par un extrait de film d'un cinéaste qui s'est formé à Moscou. C'était le père, pourrait-on dire, du cinéma africain tel qu'on l'appelle habituellement. Il s'appelle Sem Ben Ousmane et en 1966, il écrivait un film qui s'appelait La Noire 2. On en écoute un extrait.
Je suis impatiente de goûter.
Oui, c'est très bon.
La vraie cuisine africaine préparée par la bonne.
Ah. Yuana, apporte un plat de riz et du vin. Pourquoi ce tablier? Qu'est-ce que je suis ici? J'ai jamais été cuisinière. Pourquoi madame veut-elle manger du riz? À Dakar, jamais le cuisinier de madame n'a préparé du riz. Peut-être que le riz de Dakar n'est pas pareil que le riz d'ici. Je suis ici pour les enfants. Où sont les enfants? Pourquoi madame m'a-t-elle fait venir si les enfants ne sont pas avec elle? Peut-être madame me fera visiter la ville. Irons-nous voir Cannes, Nice, Monte-Carlo. Nous promènerons pour voir les jolis magasins. Et quand madame me donnera mon mois, j'achèterai de jolies robes, des souliers, des dessous en soie et de belles perruques. Et je me ferai photographier sur la plage. Et j'enverrai la photo à Dakar et les autres crèveront de jalousie. J'espère qu'ils aiment mon riz.
Merci.
Oh, c'est vraiment un peu de sauce.
Le vin va très bien.
Un peu de sauce.
Elle est bonne, hein?
Voilà.
Encore un peu.
Merci.
Oui, il faut tout faire pour venir à Dakar. L'Afrique n'est pas sûre maintenant, avec tous ces coups d'État.
Voilà donc un extrait d'un film de 1966, La Noire 2, signé Sem Ben Ousmane, père du cinéma africain, comme on l'appelle habituellement, et également donc formé, lui, comme cinéaste à l'Université de cinéma de Moscou. Bonjour Séverine Attar, et bonjour à vous, Michèle Leclerc-Olive. Sem Ben Ousmane, il fait partie, de cette masse qui est composée de milliers et de milliers d'étudiants sur lequel vous avez commencé à vous plonger à partir d'un cas très particulier. Vous pouvez nous dire comment vous êtes venue à ce sujet en tant que chercheuse, Michèle Leclerc-Olive, parce que ça n'est pas évident. On se dit qu'il y a effectivement un sujet, mais ce sujet, comment y arrive-t-on?
C'est la rencontre entre des préoccupations de recherche qui étaient assez anciennes sur les expériences biographiques et une demande qui m'a été adressée par un ancien étudiant qui a fait ses études à Kiev et qui, au retour au Mali, n'a pas trouvé l'emploi dans la fonction publique qui l'attendait. Il est parti en 78, il est rentré en 85. Entre les deux, les plans d'ajustement structurel ont considérablement modifié la capacité d'accueil des administrations centrales. Et il s'est retrouvé enseignant, petit boulot, circulant dans l'Afrique de l'Ouest et rentré au Mali après les événements de 91. Mais il voulait absolument faire connaître au monde son expérience douloureuse.
Ça s'appelait, c'était une sorte de recueil de mémoires, de souvenirs écrits donc à divers moments de sa vie après cette expérience et qu'il avait titré un noir en URSS, et ensuite il avait rajouté, après 1991 ou 92, il avait rajouté en ex-URSS, parce qu'effectivement, ça n'était plus l'URSS.
Oui, et d'ailleurs, donc il a dû écrire après son retour, au moment où il circulait en Afrique de l'Ouest pour trouver un travail, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et avec l'effondrement de l'URSS, il a relu visiblement son texte parce qu'il est entièrement émaillé de petites corrections, des ex à certains endroits, et un passage à la fin qui montre qu'il a changé de regard sur cette expérience parce que l'URSS était décrite comme immuable, atemporelle, et le seul passage où elle est resituée dans l'histoire et où sa fragilité est envisagée, c'est dans les deux, trois dernières pages de ce cahier qu'il souhaitait publier.
Et Michel de Clair-Olive, à travers l'histoire donc, de Gabriel Cissé, hein, on peut citer son nom, vous arrivez à recueillir quelques bribes d'une histoire aussi complexe, dans l'enfance, qui dit en tous les cas les allers-retours aussi à l'intérieur même de l'Afrique, puisqu'il est né au Sénégal, il repart au Mali au moment de la fin du régime autoritaire. Vous nous donnez quelques indications aussi sur justement l'influence de la culture russe, ou de l'idée en tous les cas que plus tard, quand il fait ses études, j'ai cru comprendre au lycée au Sénégal, plus tard, il irait en URSS pour poursuivre ses études. Il y a comme une évidence, vous expliquez, lui l'écrit comme tel en tous les cas.
Oui, une évidence au sens où ce n'est pas vraiment une décision personnelle. Et je pense que ça, c'est le cas pour beaucoup d'étudiants. On leur annonce, ils souhaitent une bourse pour poursuivre leurs études. Et on leur annonce, parfois simplement par la radio, ils l'apprennent comme cela, qu'ils ont une bourse, non pas pour venir en France, mais pour aller en Union soviétique. Et là, ils sont, à la différence des étudiants qui viennent en France et de l'interview d'hier, qui était...
sur la FEANF, les Fédérations des étudiants
l'étudiant
de l'étudiant en France.
Qui est interviewé en 1951. Là, à l'inverse, et c'est ce qui doit aussi intéresser sans doute beaucoup de pays africains, tout est cadré. Ils sont pris en charge dès l'arrivée à Moscou. Ils sont formés, on leur enseigne la langue russe pendant un an. Et ensuite, ils sont dispatchés dans des formations académiques qui ne sont pas exactement forcément celles qu'ils demandent. Et surtout, ils sont renvoyés dans leur pays dès la fin de leurs études. Ils ne peuvent pas rester.
Alors, il y a donc ce passage, pour vous, en tout cas en tant que chercheuse, Michel de Clair-Olive, entre ce cas donc, dont vous nous parliez tout à l'heure, Gabriel Cissé, qui vous confie ses cahiers, ses souvenirs, et qui dit qu'il veut les voir publiés, et puis le passage de l'individuel, pourrait-on dire, une sorte de récit biographique personnel, à un programme de recherche que vous avez lancé avec d'autres il y a maintenant 2 ans, qui s'appelle l'ELITAF, élite africaine formée en URSS et dans les pays de l'ancien bloc soviétique, histoire, biographie, expérience, donc qui en est à plusieurs rencontres. La prochaine aura lieu le 20-21 novembre. Et d'ailleurs, si nos auditeurs sont intéressés pour pouvoir y assister, ça se tiendra donc Avenue de France, 190 Avenue de France, à la Fondation des Maisons de Sciences, des Sciences de l'Homme à Paris, donc le 20-21 novembre, où des chercheurs réfléchissent à ces initiatives, à ces itinéraires de vie, donc qui ont conduit des étudiants d'Afrique, mais également du Moyen-Orient. On aurait pu rajouter les étudiants du Moyen-Orient, mais nous sommes dans une semaine sur les étudiants d'Afrique noire, donc jusque dans ces pays du bloc soviétique, mais également à Cuba ou ailleurs.
Oui, donc le passage de cette expérience individuelle et de singulière à un programme de recherche est lié aux rencontres avec d'autres chercheurs au moment où je recueille cette biographie, où se développent des travaux, où s'ouvrent les archives en Russie et où se développent d'autres travaux sur la formation des élites, à la fois dans les pays de l'ex-bloc soviétique et en Europe. Et il apparaît évidemment qu'il y a un angle mort et qu'il faudrait également explorer les expériences et les formations des élites africaines dont on ne sait pas grand-chose, en fait, à cette époque-là.
Alors, cet angle mort, vous êtes en train de le combler avec votre thèse, peut-être, Constantin Katsakioris. Vous êtes avec nous au téléphone depuis Athènes. Bonjour.
Bonjour d'Athènes.
Merci donc d'être avec nous et vous travaillez donc sur ces étudiants africains en URSS, sur cette université qu'on a appelée communément l'université Patrice Lumumba, mais qui avait un autre nom, c'était l'université de l'amitié, c'est ça, ou c'était le titre exact, c'était l'amitié, c'est ça?
Oui, voilà. Au départ, c'était fondé en 1960. C'était l'université de l'amitié de peuple. Et ensuite, l'année d'après, après l'assassinat du héros congolais Patrice Lumumba, il a pris le nom université Patrice Lumumba.
Alors, il faudrait peut-être revenir sur cette histoire un peu plus ancienne que ces années d'indépendance et de 1960, de rapport entre cette puissance de l'URSS avec les pays d'Afrique et les pays de ce qu'on a appelé plus tard le tiers-monde. Dès les années de la Révolution soviétique ou dans les années 20, on s'intéresse à cette possibilité de former des élites dans ces pays qui sont alors, la plupart d'entre eux sont colonisés, Constantin Katsakouris.
Oui, en effet, il y a un intérêt de la part de l'Union soviétique après la Révolution à former certains cadres politiques, mais pas des scientifiques, pas des étudiants ordinaires dans des universités ordinaires. Donc, il y a quelques dizaines de militants africains ou arabes ou beaucoup plus d'asiatiques, des Chinois par exemple, qui fréquentent des universités communistes, les universités de l'Université des travailleurs de l'Orient ou l'école de Lénine. Mais il s'agit à cette époque-là, c'est le monde des cadres politiques.
C'est plus ou moins le Comintern qui était à la manœuvre, c'est-à-dire c'est la possibilité d'exporter la révolution en dehors des frontières de l'Union soviétique, c'est ça?
Exactement, c'est le Comintern qui dirige et surveille ces écoles politiques. Mais c'est à partir des années 60 que l'Union soviétique commence vraiment à former des étudiants ordinaires, des étudiants dans des universités à côté des étudiants soviétiques et des autres étrangers.
Donc c'est après la conférence de Bandung en particulier, en 1955, et l'intérêt justement de voir émerger ces non-alignés, mais en même temps la possibilité que les deux blocs puissent tenter de poser leurs mains sur ces pays nouvellement en voie de décolonisation ou nouvellement décolonisés. C'est cela, Constantin Katsakouris?
Oui, c'est ça. C'est le mouvement afro-asiatique, c'est l'indépendance de nombreux pays qui suscite l'intérêt soviétique. Et il y a l'idée, c'est le retour d'une ancienne idée que en établissant des relations avec les pays du Sud, le bloc de l'Est peut construire une alliance, un partenariat très important. Et ça, bien sûr, pourrait faire pencher la balance en faveur du camp socialiste pendant la guerre froide.
Et Constantin Katsakouris, dans votre bonjour, dans votre article là, sur l'université de l'amitié des peuples, vous parlez d'une initiative intéressante dont on ne sait pas si elle est vraiment liée ou non à justement la création de cette fameuse université de l'amitié des peuples qui deviendra ensuite l'université Patrice Lumumba. C'est lors de ce colloque à Dakar en 59, à Dakar et Abidjan, où donc deux chercheurs, Logier et Fischer, vont proposer de créer donc des centres d'enseignement accélérés justement pour ces jeunes étudiants des pays du Sud, parce qu'ils considèrent que, par exemple, l'enseignement traditionnel français est néfaste pour eux, et puis qu'il faut leur dispenser un enseignement accéléré, qu'il y a un rattrapage à effectuer.
Oui, en effet, il y a eu cette idée qui a été formulée par le premier directeur du CNRS, Henri Logier, mais elle n'a pas eu de suite. Elle n'a pas eu de suite, je crois, pour plusieurs raisons, parce que une raison fondamentale, c'est que les politiciens, les élites africaines ne voulaient pas des établissements séparés pour leurs ressortissants. Ils voulaient qu'ils suivent les cursus des universités françaises ou anglaises. Et tout établissement différent ou à mission spéciale était considéré plus ou moins comme une suite des écoles coloniales.
Mmh. Et donc, évidemment, on voulait participer en tant que nouvelle élite en formation des nations africaines. On voulait participer de plein droit à l'université telle qu'elle existait pour tous les autres étudiants. C'était cela, c'était de ne pas avoir un statut particulier qui pourrait être un statut spécial ou dégradé par rapport aux autres étudiants des universités françaises, par exemple, ou anglaises.
Oui, c'était ça, exactement. le modèle, donc, c'était l'université de Dakar, dont vous avez parlé hier. Hein,
alors, il y a donc évidemment des tentations, j'imagine, du côté soviétique et des discussions aussi sur l'instauration et la régularisation, pourrait-on dire, de ces processus qui vont conduire des milliers et des milliers d'étudiants d'Afrique noire en particulier, mais pas seulement du côté de Kiev, de Moscou ou des autres universités du bloc soviétique, ainsi qu'à Cuba. Quelles sont les intentions, selon vous, Constantin Katsakouris, qui poussent Khrouchtchev et tous ceux qui sont au pouvoir à l'époque à développer, à favoriser ces relations avec le continent africain en particulier?
Avec le continent africain, il y avait des considérations géopolitiques de plusieurs ordres, de considérations stratégiques, mais aussi, je crois, il y avait aussi l'idée de l'expansion de la révolution, d'un renouvellement, de trouver un nouveau souffle pour la révolution communiste. Et il croyait que ces pays-là se prêtaient à prendre le relais dans les révolutions. Il ne faut pas oublier qu'il y avait la révolution cubaine entre-temps. Mm-hmm. Donc tout ça augmentait à l'enthousiasme soviétique.
En même temps, vous parlez...
Justement, ils ont cru que les élites qu'ils pouvaient former dans les universités soviétiques pourraient ensuite jouer un rôle décisif dans la construction de régimes socialistes des pays amis de l'URSS et du bloc communiste.
Sébrine,
vous parlez, oui, Constantin Katsakouris, de la bataille par les cœurs et les esprits. Il y a cette idée de solidarité, de générosité, mais qui très vite va être reprise par la propagande anti-soviétique, puisque, peut-être vous allez nous en parler, il va y avoir de nombreux problèmes qui vont, dès le départ, surgir, et notamment des problèmes de racisme pour ces étudiants africains, en URSS notamment, et dans cette faculté que vous avez étudiée plus particulièrement, donc celle de, justement, l'Université des Amitiés des Peuples, de l'Amitié des Peuples.
Oui, en effet, le dépaysement des étudiants africains en Union soviétique était très grand. Il y a eu des tensions au départ, pour plusieurs raisons. La mentalité était différente et les habitudes politiques des étudiants africains étaient différentes que celles des soviétiques. Et en effet, il y a eu aussi des incidents de violence contre des étudiants africains. Il y a eu la mort de trois étudiants, le premier en 62, ensuite en 63 et en 65. Et il y a eu des manifestations des étudiants contre le racisme à l'Union soviétique.
Oui, et on voit effectivement qu'il est difficile d'exister dans cette Union soviétique à ce moment-là, quand on est étudiant africain, et qu'une des questions essentielles de cette existence dans ce pays-là, dans cet énorme bloc soviétique, c'est de savoir si on est d'une nationalité ou d'une autre, puisque je crois que, comme pour la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, dont nous parlions hier, donc dans les années 50 et 60 et 70, eh bien là, il y a une fédération qui ne se veut pas nationale, mais une fédération internationale des étudiants d'Afrique en Union soviétique, qui est censée rassembler, regrouper, représenter cette masse d'étudiants qui se précipitent pour se former en Union soviétique à partir des années 60. Constantin Katsakouris.
Oui, au départ, en 1959, il y a eu déjà quelques organisations des étudiants africains qui étaient formées, pas sur la base nationale, mais pour rassembler tout l'ensemble des étudiants de manière individuelle. Donc, ils acceptaient des membres individuels, pas des collectivités nationales. Et ensuite, en 1962, est en effet créée la Fédération des étudiants africains en Union soviétique, qui est sur le modèle de la FEANF, dont vous avez parlé hier. Et là, les membres sont les associations nationales des étudiants africains.
Alors, Michel Leclerc-Olive, vous venez d'écouter avec attention ce que dit Constantin Katsakouris, qu'on entendra dans cette rencontre, cette conférence que vous organisez donc le 20 et 21 novembre prochain à la Maison des Sciences de l'Homme, la Fondation des Maisons des Sciences de l'Homme à Paris, donc autour de cette question des étudiants africains. Il faudrait peut-être dire à ce stade de la discussion à nos auditeurs que tout cela n'était pas un modèle fermé, c'est-à-dire qu'ils se formaient certes dans ces pays soviétiques, mais ils rentraient chez eux, et quand ils étaient rentrés rentrer chez eux, l'exemple de Semben Ousmane nous le dit. Ils pouvaient repartir dans l'ancienne métropole coloniale, travailler avec des producteurs de cinéma français ou francophone, et qu'il n'y avait pas, il y avait des circulations possibles, en particulier dans les milieux de la gauche européenne, pour accueillir ces étudiants qui n'étaient pas simplement cantonnés à un dialogue entre pays soviétiques et leur pays d'origine, Michel Leclerc-Olive.
Oui, je rajouterais quand même que les étudiants qui partaient se former n'étaient pas tous forcément liés à des partis politiques. Il y avait plusieurs filières et il y avait aussi un réseau pour obtenir des bourses par le biais des ministères et des formations officielles. Quand ces étudiants partaient dans ce cadre-là, ils bénéficiaient non seulement de la bourse accordée par l'Union soviétique, mais un complément de bourse accordé par leur pays de départ. Mmh. Ce qui fait que ces étudiants, d'une certaine manière, vivaient mieux, avaient plus de moyens pour vivre que les étudiants soviétiques. D'autre part, ce ne sont pas les pays proches idéologiquement de l'Union soviétique qui ont seulement envoyé des étudiants.
Eh oui, il faut le dire, ça.
Oui, on a rencontré lors de notre colloque de Mohammedia en octobre 2013 au Maroc des témoins, des ingénieurs formés en Union soviétique et qui y allaient en étant tout à fait convaincus qu'ils n'avaient pas idéologiquement de sympathie pour le régime, mais ils allaient y chercher une formation technique de très haute qualité. Et pour revenir maintenant à votre question sur ce qui se passe après la fin des études, puisqu'ils étaient obligés de quitter l'Union soviétique, effectivement, beaucoup, mais on ne peut pas donner de chiffres actuellement, beaucoup ont cherché à compléter ou poursuivre leurs études dans les pays européens, dans les anciennes métropoles, car bien souvent, c'était leur désir initial. Et c'est autoritairement qu'on les a envoyés en Union soviétique. Ce n'était pas un souhait.
Il est 8h30, il est 9h30 sur France Culture. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, l'émission d'Emmanuel Laurentin avec Séverine Yatar aujourd'hui. Et nos trois invités, donc Michel Leclerc-Olive, Constantin Katsakiouris et Habitassé, qui tous nous parlent dans cette série de La Fabrique de l'Histoire consacrée donc à l'histoire des étudiants d'Afrique noire après les indépendances, des rapports entre l'Afrique noire et les pays du bloc soviétique. Séverine Yatar.
Oui, Michel Leclerc-Olive et Constantin Katsakiouris, puisque vous parliez voilà, des pays qui envoyaient leurs étudiants, qui n'étaient pas forcément des pays pro-soviétiques. Certains de ces pays, donc on l'a compris, vont protester sur cette manière un petit peu, non pas autoritaire, mais cette manière de proposer des bourses à des étudiants, d'une certaine manière, à leur insu. Et c'est dans votre article, Constantin Katsakiouris, que vous parlez notamment du cas du Maroc, qui va refuser que ces bourses soient délivrées à leurs étudiants donc dans les années 60-70, en estimant notamment que les formations et celles de l'Université de l'Amitié des Peuples dispensées en URSS n'est pas bonne ou est spécifiquement pour les étudiants africains et donc sous-évaluée.
Oui, en effet, les gouvernements des pays africains, ils étaient très gênés par les méthodes de recrutement d'étudiants des établissements soviétiques, non seulement de l'Université de l'Amitié des Peuples, mais aussi des autres universités qui souvent recrutaient par le biais des partis ou des organisations communistes. Et donc, ils ont pris des mesures pour arrêter ce type de recrutement. Mais c'est aussi le fait que les soviétiques eux-mêmes, ils se sont rendus compte au fur et à mesure que les étudiants recommandés par les organisations et les partis communistes n'étaient pas forcément des bons étudiants et très souvent ils étaient constitués des éléments perturbateurs. Donc, à partir du milieu des années 60, on voit déjà qu'il y a une entente entre les États, l'État soviétique et les États africains, et il y a une coopération pour l'octroi des bourses. Et même les bourses octroyées aux partis sont très souvent directement octroyés au parti unique d'un tel ou tel pays africain qui contrôle donc l'octroi pas de bourse.
Et il est important de dire à ce stade de la discussion, peut-être avec vous, Constantin Katsakioris, mais également avec Michel Leclerc-Olive, et puis Habitacé vient de nous rejoindre au téléphone, de dire que ce dont nous parlons maintenant est un véritable chantier historiographique, un chantier historique, puisque ça s'est ouvert relativement récemment avec votre travail de thèse, Constantin Katsakioris, avec le travail d'Habitacé ou avec tous ceux qui travaillent autour de ce programme ELITAF, qui est relativement récent puisqu'il date de 2 ans, et que, évidemment, on n'a pas toutes les réponse aux questions qu'on se pose, en particulier en termes de nombre d'étudiants, en termes d'archives, de conditions de vie quotidienne, de programmes même peut-être de ce qui était enseigné, de distinction entre les enseignements à l'intérieur de tous les pays du bloc soviétique ou de Cuba, par exemple. En tout cas, c'est un chantier, Constantin Katsakioris. On est au tout début de ces recherches, pourrait-on dire.
Grâce à ce réseau constitué autour des chercheurs francophones, autour de Monique de Saint-Martin, de Michel Olive et de Patrice Yango, il y a un grand travail qui est fait en ce moment pour comprendre comment c'était les conditions de vie et les études des étudiants en URSS et dans les autres pays communistes, et ensuite de poursuivre ces étudiants une fois qu'ils sont partis, et que soit ils sont retournés chez eux, soit ils ont émigré ailleurs, comme Michel disait avant.
C'est vrai,
alors peut-être Habitacé, vous êtes avec nous au téléphone.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Nouakchott où vous enseignez.
Donc peut-être on peut vous aussi vous retourner la même question que nous avons sollicitée à Michel Leclerc-Olive. Comment vous en êtes arrivé à travailler donc sur alors je crois un cas d'étudiant en particulier, une trajectoire d'un étudiant éthiopien.
Oui, merci. Bonjour tout le monde. En fait, moi, j'ai commencé depuis un certain nombre d'années à travailler plutôt sur les mouvements clandestins qui ont secoué un peu l'Éthiopie dans les années 70, jusqu'à dans les années 80, et puis sur les différentes guérillas éthiopiennes. C'est autour de cette étude que j'ai trouvé un certain nombre d'étudiants qui étaient issus de ce qu'on appelait l'ex-bloc soviétique, mais particulièrement l'Union soviétique, qui était dans ces mouvements-là. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à me mettre avec le collègue qui travaille sur ces étudiants qui ont étudié dans les pays de bloc soviétique.
Alors il y a une particularité à ces étudiants éthiopiens, c'est qu'effectivement le régime jusqu'à la mort d'Haïlé Sélassié, puis à l'arrivée au pouvoir d'un régime pro-soviétique, donc avec le colonel Mengistu, c'est plutôt la deuxième moitié, pourrait-on dire, de ces rapports en chronologiquement, de ces rapports entre l'Union soviétique et ses satellites et l'Afrique noire, puisque c'est à partir du milieu des années 70 que ça se développe, même s'il y a sûrement des premiers contacts et des premiers étudiants qui partent bien avant. Est-ce qu'il y a une différence, selon vous, Habitacé, chronologique, entre travailler sur la première partie, c'est-à-dire à partir du moment des indépendances en 1960 et juste après, et sur cette période où, disons, l'Union soviétique taille des croupières au régime pro-américain dans l'Afrique tout entière, mais où en même temps, le système soviétique commence à avoir quelques ratés, en l'occurrence Habitacé.
Oui. En fait, il n'y a pas vraiment une rupture. Il y a plutôt une continuité entre ces deux périodes, si on peut parler en termes de périodisation. Parce que s'agissant le cas des étudiants éthiopiens, bon, l'envoi des étudiants vers l'Union soviétique, ça commence bien avant même qu'on appelle cet espace Union soviétique. C'est en fait le premier Éthiopien qui partirait, il part vers 1901. Donc vous imaginez, donc il y a toute une continuité. Et ce qui est intéressant dans le cas de l'Éthiopie, c'est qu'il y a des étudiants éthiopiens qui se trouve donc en soviétique avant 1974, sont ceux qui vont sans doute être virulents contre l'Union soviétique et qui organiseront des mouvements relativement forts contre le régime de Mengistu Haïlé Mariam plus tard.
Ah oui, donc vous voulez dire que ceux qui sont les plus précoces dans leur envoi en Union soviétique et leurs études en Union soviétique vont être ceux qui vont combattre le régime mis en place à partir de 1974 et qui était un régime pro-soviétique, c'est ce que vous semblez dire, Habitacé ?
Oui, exactement. Parce que bon, en Éthiopie, il n'y avait pas de parti politique avant les années 1974, parce que c'était le mouvement étudiant qui cristallisait quelque part les débats politiques ou les mouvements politiques contre l'empereur et les glaciers. Mmh. Et ces mêmes personnes-là, en tout cas pour certains qui sont en Union soviétique, s'engageront, bien entendu, s'engagent dans la politique bien avant l'arrivée de Mengistu et de Mariam et, je dirais, la révolution de 1974. Mais dès 1974, c'est ceux-là qu'ils rencontrent. Le régime de Mengistu et de Mariam et l'aide soviétique.
Alors la particularité aussi de ces étudiants éthiopiens, c'est qu'ils ne sont pas formés qu'en URSS, mais ils sont formés aussi beaucoup à Cuba, en grand nombre. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est un autre type de formation? Est-ce qu'ils reçoivent un type de formation différent de ce qu'ils recevaient en URSS ou dans les pays d'Europe de l'Est?
Donc en fait, dans les premiers temps, avant les années 1914, la plupart des étudiants qui partiront en Union soviétique, ce sont plutôt des techniciens au départ. Mmh. Et il faut savoir que l'Union soviétique avait créé une école, je dirais, d'ingénieurs, une petite école d'ingénieurs dans le centre d'Éthiopie, durant l'empereur. Et c'est les premiers qui vont partir et qui vont s'engager positivement, c'est les étudiants qui sont issus de cette école. Donc c'est les gens qui vont partir à Cuba, c'est un peu différent dans la mesure où c'est vraiment durant le régime de Mengistu et de Mariam qui vont partir. Et c'est souvent des étudiants qui vont faire vétérinaire médecine ou des trucs assez techniques et qui sont un peu politiques en réalité. Mmh. Donc, c'est, en fait, il y a vraiment à déconstruire cette idée qu'il y aurait une unité de l'ensemble des étudiants qui ont étudié en Union soviétique parce qu'on voit se profiler des positions et des postures très, très différentes à l'intérieur même. Je dirais des groupes qui ont étudié dans ces pays-là.
Séverine Yatar veut vous poser une question.
Non, juste parce que vous montrez aussi dans vos articles, Habitacé, qu'il y a toute une formation militaire, en tous les cas, qui est aussi donnée plutôt en Union soviétique.
Oui, mais ça, c'est donc les formations militaires, enfin, la formation de l'armée éthiopienne, celle-ci, doit vraiment continuer à partir du régime de Mengistu et de Mariam, parce que là, il y a eu massivement une formation militaire qui va se passer. Mais encore une fois, c'est sans doute pour relativiser, le premier Éthiopien qui va partir en soviétique en 1901, il va aussi dans une école de l'Académie militaire, mm-hmm. vous imaginez. Donc, là aussi, c'est pour ça qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau. Simplement, il y a une massification qui va se passer à partir des années 1974 et de l'alliance entre l'Union soviétique et Mengistu et le Mariam.
Combien d'étudiants partent à partir de 1974 et de la révolution éthiopienne de Mengistu et le Mariam en Union soviétique ou dans les pays communistes pour se former? On le sait, on a une petite idée de ce nombre, Habitacé?
Oui, comme dit tout à l'heure, je dis, c'est difficile à donner des chiffres, mais on peut penser, en tout cas il y a un certain nombre d'indications, qui disent rien qu'en Union soviétique, il y a eu autour de 7-8 000 étudiants qui sont partis donc à partir de 1974. Mmh. Il faudra multiplier ce chiffre entre 3 et 5 si on doit regarder sur l'ensemble des territoires de l'ex-bloc soviétique. Mmh. Donc Cuba a accueilli un nombre important avec une spécialité, par exemple, Cuba a accueilli des enfants de très bas âge parce que c'était des enfants de soldats. Et ils vont les former non seulement sur le plan universitaire, mais ils vont être formés vraiment, y compris dans les primaires, quoi, dans les écoles primaires et secondaires.
Michel Leclerc-Olive, sur cette question qui nous pose non seulement la question de savoir combien de gens ont été formés, ce qu'il est pour l'instant difficile d'avoir comme statistique, mais également sur la distinction entre cette masse et puis ces itinéraires individuels pour pouvoir redonner, disons, faire un peu de prosopographie, redonner un peu d'humanité à cette masse des étudiants formés dans l'ancienne Union soviétique.
Oui, je rajouterais volontiers à ce qu'a dit Abby. On a du mal à avoir des chiffres précis. Par exemple, ceux que l'on peut obtenir à partir des documents déclassifiés de la CIA n'incluent pas les militaires. Les chiffres obtenus au niveau de l'Union soviétique, en particulier par Constantin, sont sans doute plus fiables puisqu'ils doivent inclure fort probablement les étudiants qui ne sont pas passés par les institutions académiques, il reste que il est très intéressant de regarder, et ça va nous ramener au cas individuel, ce que représentent ces populations d'étudiants, soit par rapport à la population du pays. Mmh. Il ne faut pas compter simplement par pays, le rapport entre, par rapport à la taille de la population, mmh. et d'autre part par rapport à la taille de ce groupe des gens diplômés dans un même pays. Et là, on voit de très très grandes diversités à l'inverse.
De très grands écarts, vous
voulez dire. De très grands écarts.
Et quels sont les pays qui, disons, contribuent le plus à ce rapprochement, à l'amitié entre les peuples et au rapprochement avec les blocs soviétiques?
Alors, il faudrait regarder dans le détail, mais par exemple, mais ça nous sort de l'Afrique, la Syrie, l'Afghanistan étaient très concernés. Mmh. Au sein de l'Afrique subsaharienne, le Mali beaucoup plus que le Sénégal, et globalement plus l'Afrique subsaharienne que l'Afrique du Nord. Par exemple, si on rapporte les étudiants formés dans les pays de l'ex-bloc soviétique, dans les pays d'Afrique subsaharienne, en gros, on est à 10 sur 1000, alors qu'en Afrique du Nord, on est à 2 sur 1000. Donc le poids dans les élites dirigeantes est beaucoup plus grand dans ces pays d'Afrique subsaharienne.
Séverine Yatta.
Oui, Constanta Katsakioris, je voulais revenir un petit peu avec vous. On a commencé à aborder ce sujet sur la question du diplôme. Le diplôme soviétique, qu'il soit donc de l'Université de l'Amitié des Peuples ou d'autres universités à Moscou ou ailleurs, est-ce qu'il a la même valeur? Est-ce que réellement ces étudiants vont trouver des débouchés facilement? Dans quel pays? Comment? Et ça, vous en expliquez notamment en prenant l'exemple de la médecine, où on voit bien que quand même il y avait cette idée à l'Université de l'Amitié des Peuples qu'il fallait faire une formation accélérée et que donc on avait peut-être des médecins formés un petit peu trop vite.
Exactement. Surtout pour les médecins formés à l'Université Patrice Lumumba, ces diplômés, on a eu du mal à faire reconnaître leur diplôme, et dans plusieurs pays, ils ont dû refaire des études pour une ou deux années, ensuite faire un internat dans le pays et devenir médecin. Et le problème s'est posé dans plusieurs pays avec les diplômés de l'Université Patrice Lumumba, parce que le pays n'homologuait pas souvent le diplôme de cette université. Mais au fur et à mesure, l'Union soviétique signait des accords avec les pays, des accords bilatéraux pour les équivalences des diplômes. Et ça, c'était quelque chose de très positif pour les diplômés. Mais par-delà la question des équivalences, les premiers diplômés, qui très souvent ont eu du mal à obtenir une bonne équivalence de leur diplôme, ont quand même trouvé un travail parce que il y avait un très grand besoin de cadres. Mmh. Et il obtenait aussitôt une très bonne position dans la fonction publique. Ce n'est pas seulement une question de la reconnaissance du diplôme, bien sûr, ça c'est le fondamental, mais ensuite c'est la question de la réalité économique et de besoin de cadres dans chaque pays.
C'est là, Michel Leclerc-Olive, où il faut revenir au cas individuel, revoir les itinéraires personnels, puisque ce cas dont vous nous parliez au tout début de cette émission, de ce chercheur universitaire malien retourné dans son propre pays et qui ne trouve pas de travail à la hauteur de son diplôme, pourrait-on dire, n'est pas, j'imagine, isolé, mais il y en a d'autres qui, comme le dit Constantin Katsakioris, donc sont des gens qui trouvent un bon travail dans la fonction publique quand ils reviennent chez eux, par exemple.
Il faut sans doute distinguer plusieurs périodes. Les retours qui se font après les plans d'ajustement structurel sont sans doute, on n'a pas de chiffres, on n'a que des expériences individuelles, justement, se heurtent à une fermeture de la fonction publique. Et c'est eux qui ont beaucoup de mal, comme Gabriel Cissé, à trouver un métier correspondant à leurs qualifications.
Parce que Gabriel Cissé revient à la fin des années 80.
Hein, il revient en 85. Ça, ouais. Il était sénégalo-malien. Le premier traumatisme de sa biographie, c'est la séparation en 61 du Sénégal et du Mali. La fédération explose, ouais. Et il est obligé de revenir au Mali alors qu'il a été formé dans un milieu catholique et francophone, et il arrive dans un milieu musulman et bambara. Donc c'est sa première expérience de migration, en quelque sorte. Et donc il est évidemment l'un des premiers à être victime de ces restrictions liées au plan d'ajustement structurel imposé au Sénégal.
Constantin Katsakiris, une question, et peut-être aussi à Habitassé, qu'on peut se poser, c'est une fois que ces étudiants, on a bien compris que ces étudiants sont formés dans le bloc soviétique, ils sont formés à l'université Patrice Lumumba, et qu'ensuite ils quittent donc obligatoirement, c'est dans le terme du contrat qui est passé entre leur pays d'origine et donc l'Union soviétique, ils quittent le territoire de l'Union soviétique. Est-ce que l'Union soviétique maintient des liens avec ces anciens étudiants qui ont été formés, qui parlent le russe parce qu'ils ont été formés en Russie ou dans les territoires voisins? Est-ce qu'il maintient le lien? Est-ce qu'on maintient le lien? Et d'une façon ou d'une autre, est-ce qu'on tente de faire en sorte que, non pas ce soit des agents d'influence de l'Union soviétique, ce qui a pu être le cas, mais plus généralement qu'ils participent à une sorte de ce qu'on appellerait aujourd'hui « soft power » soviétique en Afrique?
Oui, en effet, les ambassades soviétiques dans les pays africains et arabes essayent de soutenir les anciens diplômés et de les aider à former des associations, et là où, bien sûr, le gouvernement le permette. Et en effet, il y a dans plusieurs pays des associations d'anciens diplômés et qui, très souvent, sont actifs dans des sociétés d'amitié, par exemple l'Union soviétique Congo-Brazza, etc. Et à ces associations, l'Union soviétique accorde des bourses, soit pour les diplômés qui n'ont pas de travail, on leur donne une bourse pour faire une thèse en Union soviétique, soit pour quelques membres de l'association qui peuvent donner la bourse, par exemple, à leurs enfants. Donc on les soutient. On les soutient avec autant qu'on peut, parce qu'il n'avait pas énormément de moyens, les soviétiques, ils ne disposaient pas énormément de moyens pour leur politique culturelle en Afrique. Mais en tout cas, il y a du soutien, il y a un certain suivi. Pour continuer à avoir à alimenter l'amitié soviéto-africaine.
Habitassé, c'est la même chose dans l'Éthiopie du colonel Mengistu, donc lui évidemment qui est dans un régime extrêmement favorable à l'Union soviétique et qui est considéré comme à ce moment-là dans cette Éthiopie des années 75-80 donc comme étant un des lieux de pouvoir du pouvoir soviétique en Afrique.
Oui, exact. Donc à cette période-là, de manière évidente, non seulement l'Union soviétique aidait ou en tout cas accompagnait ses étudiants, mais ses étudiants occupaient des postes les plus importants. En fait, ce que j'appelle les étudiants, en fait, la plupart, ce sont des cadres politiques qui vont être secrétaire général du Parti des travailleurs éthiopiens, qui vont occuper des fonctions les plus importantes. Mais en même temps, sans doute un peu de manière décalée, il faut voir qu'il y a une partie des étudiants qui vont se former en Union soviétique, qui partent en Union soviétique parce qu'ils n'ont pas de choix. Il faut se souvenir qu'à l'époque du colonel Mengistu, le départ vers les pays occidentaux, que ce soit l'Europe de l'Ouest ou les États-Unis, est très contrôlé. Donc un certain nombre d'étudiants partent en Union soviétique parce qu'ils n'ont pas d'autres opportunités ou d'autres options, parce que l'université éthiopienne, il y avait à l'époque une seule université, n'accueillait pas ses étudiants. Ce qui fait qu'ils partaient à l'Union soviétique, et de l'Union soviétique, ils partaient en vacances vers l'Allemagne, et là, ils demandaient des statuts de réfugiés, et on trouve aujourd'hui un nombre très très important d'étudiants éthiopiens qui ont fait une partie de leurs études en Union soviétique, et qui vont passer pendant l'été vers l'Allemagne, ou en tout cas vers le bloc de l'Ouest, et partir aux États-Unis. Et les États-Unis avaient à l'époque une ouverture incroyable pour ces gens qui venaient, je dirais, des pays de bloc de l'Est. Il y avait une politique d'accueil de ces réfugiés. Donc beaucoup se trouvent aujourd'hui en Union soviétique, en Angleterre, un certain nombre en France.
C'est une sorte de ruse de l'histoire que vous nous décrivez, Habitassé, là, parce qu'en fait, on veut une politique d'influence, et au bout du compte, cette politique d'influence se retourne contre le pays qui l'a mise en place.
Ben, c'est souvent le cas dans l'histoire, c'est pas simplement le cas de l'Union soviétique.
Oui, on a connu ça avec nos anciennes colonies, par exemple, c'est ce que vous voulez dire.
Exactement.
Michel Leclerc-Olive, dans ce travail en chantier, puisqu'on a bien expliqué depuis le début que c'est un chantier, quels sont les obstacles que rencontrent ces chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là, des obstacles soit en France, soit dans leur pays d'origine, soit dans les pays, dans la Russie d'aujourd'hui. Est-ce que c'est l'accès aux archives? Est-ce que c'est la difficulté aussi de faire parler de leur itinéraire, ceux qui ont vécu cette expérience-là? Est-ce que, qu'est-ce qu'il y a
de les comme... retrouver, tout simplement.
De les retrouver,
parce
tout
que
simplement.
Ce sont des grands voyageurs. Enfin,
voilà. Et c'est l'un des objectifs de ce programme, c'est de retrouver des gens, de les remettre, renouer des amitiés, des interconnaissances. Donc, ça fait partie de ce travail qui n'est pas proprement de la recherche, mais qui est de la rencontre et du réveil d'expériences que, et c'est ce qu'on constate en rencontrant beaucoup d'anciens étudiants formés dans les pays de l'ex-bloc soviétique, c'est que cette expérience n'a pas été refoulée, oubliée, mais qu'elle n'était pas remise à l'actualité.
Dans la biographie des individus.
Oui. Par exemple, je n'ai fait que des enquêtes très ponctuelles, mais lors de la mise en place d'un gouvernement de transition au Mali, j'ai regardé les notices biographiques et presque aucun membre de ce gouvernement ne signalait ses études en URSS, alors que nous savions qu'ils étaient passés en Union soviétique. Mais ils ne signalent que ce qu'ils ont fait après, parce que bien sûr... pour la plupart, comme Gabriel Cissé, ils sont renvoyés dans leur pays à la fin de ce qui serait aujourd'hui le master, donc après 5 ans d'études. Mm-hmm. Mais en général, ceux dont on a connaissance aujourd'hui ont poursuivi, ont fait une thèse et, dans certains cas, en France, dans un pays occidental.
Mais ça veut dire quoi ? Ça n'est pas un signe que c'est une tâche indélébile sur le CV, mais que, disons, on ne le revendique pas comme tel, ou que ça ne fait pas bien de se dire être passé par ces universités-là.
Et ça n'est pas qu'une question individuelle et biographique. C'est un pan d'histoire qui est à retravailler. Il y a des travaux aujourd'hui, mais cette période de 60 à 70, par exemple, l'histoire de la tricontinentale, il y a des ouvrages, mais on ne peut pas dire...
Il y a un ouvrage qui est sorti l'année dernière, je crois, aux éditions de La Découverte.
Exactement. Mais on ne peut pas dire que cette période de l'histoire et les espoirs que beaucoup de gens avaient nourris à cette époque soient dans les mémoires. Mmh. Il y a eu des déceptions, des déviations par rapport... Ce qu'on attendait d'un certain nombre de pays ne s'est pas réalisé. Et c'est une forme d'oubli particulière qui est plutôt une mise en attente d'occasion pour en parler. Et l'ITAF cherche à réveiller ça. Vous m'avez demandé sur l'accès aux
archives.
Oui, les archives se sont fermées en URSS, et donc, en Russie, pardon. Et donc, oui, on n'a pas pu avoir accès aux données qu'on souhaitait.
Et remplir. Dans chacun des États concernés, Michel.
Ce travail est en train d'être fait parce que, autre limite, on constate donc dans cette équipe, ce groupe de chercheurs, qui regroupe pas loin d'une centaine de personnes, ce sont plutôt des chercheurs en situation précaire. Ce qui montre que ce n'est pas une thématique
porteuse. Enfin,
institutionnalisée, valorisée. Justement, ce qui participe de cet oubli bizarre. Et donc, on manque de moyens.
Ouais, et donc
effectivement, on va mener des enquêtes dans les pays de départ où, semble-t-il, les institutions, les ministères qui s'occupent de leurs citoyens ressortissants partis à l'étranger sont très intéressés par cette recherche. On est à cet endroit-là.
Et puis il y a aussi, j'imagine, Prague ou d'autres endroits comme cela qui sont
la Pologne pour le cinéma, par exemple,
qui sont plus accessibles peut-être que les archives de l'ex-URSS. Un dernier mot, Constantin Katsakiouris, vous êtes très avancé dans votre thèse.
Oui, j'espère se tenir d'ici dans 2-3 mois.
Bon.
Et donc on pourra
avoir peut-être les résultats de vos travaux ainsi que donc ceux des autres participants à cette table ronde discussion de conférence étudiants africains en URSS et dans les autres pays du monde communiste 1960-1990 entre histoire nationale et contexte international. C'est le 20 et 21 novembre prochain, donc c'est tout bientôt. Ça se tiendra à Paris à la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme au 190 avenue de France, et donc il y a tout un programme avec une trentaine, une vingtaine vingtaine ou une trentaine de chercheurs qui vous accompagneront. Michel Le Clair-Olive, il y a donc Constantin Katsakiris et d'autres qui participeront à ces réflexions sur ces étudiants qui sont partis d'Afrique, mais pas seulement, jusque dans le bloc, ce qu'on appelait le bloc soviétique ou les pays socialistes, puisqu'on ne sait pas très bien comment l'appeler maintenant. Pour nos auditeurs qui ne pourraient pas se rendre à cette conférence, est-ce qu'il y a un moyen de savoir des articles, des choses comme ça qu'on peut trouver sur ce sujet-là,
oui.
Michel Le Clair-Olive ?
Le programme de recherche ELITAF,
ELITAF,
donc j'ai dit qu'une centaine de chercheurs, dont 75% sont des chercheurs africains, est porté par le réseau interdisciplinaire Afrique-Monde, qui a un blog. Et donc, quand on tape sur Google Afrique-Monde ou RIAM, on trouve le blog avec toutes les informations sur nos activités.
On mettra ce lien sur notre site. Merci à vous, Constantin Katsakiris, et ainsi qu'Habitacé, d'avoir été aussi longuement au téléphone avec nous depuis Athènes pour Constantin Katsakiris et depuis Nouakchott avec vous, Habitacé. Merci encore. Merci à vous, Séverine Yattar, pour la préparation et l'animation de cet ensemble de cette semaine consacrée aux étudiants d'Afrique noire après les indépendances. Et à la prochaine fois. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Venève Olivier et Aurélie Marcet. Jean Frédérics nous a accompagnés à la technique et Véronique Samuilov à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.franceculture.fr. Vous pouvez également écouter cette émission donc pendant 1000 jours sur ce site, la télécharger pendant un an après sa diffusion. Laissez vos commentaires sur nos pages et nous les lisons bien évidemment. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou nous suivre sur le réseau Twitter.